Kanta, good morning, bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous sommes le mardi 4 juillet 2023. Il sont 11h. Nous sommes heureux de nous retrouver au studio ici avec autour de moi Eric Hugues Johnson de l'Union pour la Patrie. Bonjour.
De l'Union.
L'Union.
Bonjour Sas, bonjour chers collègues, bonjour chers amis, auditrices et auditeurs de Canal FM. Sas, tu permets que je dise un petit mot. Je voudrais commencer cette émission en encourageant nos jeunes basketteurs de l'équipe Swallows qui ont été éliminés par la grande équipe de Model. Je les encourage parce que c'est des jeunes. Hein. Ils sont pratiquement dans la fleur de l'âge, en moyenne 16 ans. Et c'est eux qui ont rivalisé le terrain avec la modèle. Malheureusement, ce qu'on a vu ce week-end au stade municipal de Lomé, c'est encore un problème d'arbitrage. On l'a souvent relevé dans presque toutes les disciplines sportives dans notre pays. Il y a ce problème.
Mais nous retenons le fair play, les jeunes de Swallows qui ont perdu. Mais s'ils ont perdu aujourd'hui, c'est pour mieux rebondir prochainement, d'autant plus qu'ils sont encore dans la fleur de l'âge. Isidore Atialo Sassou à couleur de Actu Express, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour à Eric. J'étais le nom du second que vous allez révéler.
Et celui qui suit directement, qui vient après toi, c'est Sam Alnas Teterou Djobo de l'Éveil de la Nation. Oui.
Et les auditeurs, salut à toutes et à tous.
Merci. Oui, Alnas.
Bonjour Sas, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de la nouvelle génération.
Merci, c'est parti. Pendant 60 minutes, nous débattons de divers sujets entre nous, comme une page culture et art. Nous allons continuer avec le ménage que Cocoroco opère dans l'écurie des écoles. Naturellement, une pensée toute confraternelle et amicale à l'endroit de Ferdinand Haïté, le tout chaudement ou fraîchement lauréat pour son courage et son opiniâtreté. Nous allons parler du Sénégal avec le président sénégalais Macky Sall qui s'est adressé à ses compatriotes hier. Et le constat est fait que, en quelques phrases, Macky Sall, qui était voué aux gémonies, redore son blason et récolte des satisfecits ici et là. Comment venir à bout de l'insécurité dans notre pays? Nous allons en parler et terminer avec des informations économiques. Et comme c'est une tradition, la pensée du jour avec le sage qui nous dit aujourd'hui que l'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Ils ont l'expérience de la technique. Eux, c'est Victor Gwekoku Michel Tominga et Gérard Kodjo Akucha. C'est lui qui réalise l'émission. Et nous vous saluons donc, vous qui co-animez le Club de la Presse avec nous sur Canal FM, sur Radio Lumière, sur Radio La Paix, La Voix des Plateaux à Takpamé, sur Radio Centrale FM, sur Radio Sama FM, sur Radio Daoul, sur Radio Courtoisie et naturellement les applications numériques qui nous connectent avec vous de par le monde entier. Et vous savez que après la petite pause de 12 heures, vous pourrez entrer dans l'émission avec nous en composant le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Eh bien, c'est parti avec la page culture, art et autres avec ces articles que nous fournit l'Union. L'article numéro 1 s'apporte l'artisanat d'art avec la deuxième édition du salon artistique de l'association de promotion et d'enseignement local qui va s'ouvrir incessamment chez nous, Eric.
qui va s'ouvrir du 31 juillet au 6 août prochain sur l'esplanade du palais des congrès de Lomé.
Oui.
Au total, il y a une douzaine de corps de métier qui sont attendus dans les arts visuels, la littérature, les arts du son, la sculpture, les arts de la scène, la joaillerie, la poterie, le cinéma, la vannerie, le stylisme, modélisme, l'agroalimentaire et l'agrocosmétique. Ça, les organisateurs de cette édition disent une chose très importante, que la renaissance d'une communauté dépend de ses artistes et artisans. Mmh. Alors, donc, c'est pour nous démontrer que ces corps de métier constituent la vitrine de la société que nous sommes. Donc, aujourd'hui, si nous voulons promouvoir notre société, il faut faire avec ces corps de métier.
Merci. Nous continuons avec un tam-tam, ou disons plutôt des tam-tams jumeaux. Si je ne m'abuse, ce tam-tam, il est coutumier dans l'aire Adjatado, au sud du Togo, ici. Nous l'appelons Atopani, mais les Kotokoli aussi le connaissent, n'est-ce pas, Sam Diobo?
Oui, je crois que le même tam-tam se retrouve dans beaucoup d'autres cultures et coutumes. Mm-hmm. Et chez nous, il s'appelle beaucoup plus So. Il s'appelle So. La même expression, on la retrouve aussi chez les Kabyes. Mm-hmm. Akara, c'est tam-tam jumelles qui sont un peu utilisées lorsque qu'un personnage ou une personne d'un certain âge décède. Oui. Chez nous particulièrement, c'est en ce moment où, à des grands événements, lorsqu'un chef, un nouveau chef veut être intronisé, on utilise ce tam-tam-là. C'est en quelque sorte un tam-tam parlant. Mm-hmm. Et donc, il est utilisé chez nous, effectivement, pour véhiculer un message.
Si je ne m'abuse, le Atopani ou bien le tam-tam, les tam-tam jumeaux ou tam-tam parlant, ça doit se retrouver également dans l'ère Bassar, si je ne m'abuse trop. Eh bien, l'Atopani, nous les verrons abondamment sur scène. Il s'agit d'un spectacle, un spectacle Atopani. C'est l'Union qui nous en parle, ce sera le 16 juillet prochain. Et Eric, l'article dit... comment dire le monde autrement? Mais dire le monde autrement, pas avec la parole ni la voix, mais uniquement avec Atopani. Alors, 50 tam-tam Atopani vont nous livrer ce festival incessamment. Eric?
Oui, évidemment. Ça, ça m'a dit que leur tam-tam saut. C'est deux tam-tams jumeaux qu'on met ensemble, oui, mais qui sortent de différents sons.
Oui.
Et donc, ce qui va se passer avec Atopani, je ne sais pas si vous avez déjà suivi un spectacle tanzanien où il y a plus d'une centaine de tam-tams qui sont alignés, mais chaque tam-tam avec
sa sonorité.
Mm-hmm. Et donc, ceux qui jouent ça, j'avoue que ce sont des génies. Là,
bon, avec ils sont plutôt des artistes.
Ah mais des initiés. J'avoue que ça, c'est, pour arriver à comprendre ces sons, ces sonorités là et en faire une musique, donner quand même une expression pour que les gens puissent comprendre ça.
Oui.
Il faut vraiment un métier.
Oui.
Et donc je dis qu'avec les 50 Atopani, là, ils ont fait une résidence. La résidence a permis de se perfectionner en la matière et donc de nous faire un spectacle digne de ce nom où chaque tam-tam va nous parler.
Alors, juste une seconde. Dire l'histoire de nos traditions dans un nouveau langage d'humanité ou encore poser le constat d'une vision du monde jeune mais avec des instruments traditionnels. Voilà l'objet de ce festival. Isido?
Il faut voir l'aspect ésotérique et l'aspect ésotérique. Il n'est pas donné à tout le monde de jouer à Atopani. Il faut être un initié.
Oui.
Donc, c'est pas si c'est un marketing culturel qu'on est en train de faire ou c'est le vrai Atopani qu'on va exposer.
Je crois savoir qu'ici, c'est les artistes. Parce que, Isidore, tu sais qu'il y a des danses de nos couvents. Par exemple, des danses Révieso. Mm-hmm. des danses ananas, des danses blequetées, qu'on danse dans les couvents, mais les artistes savent sortir ces chansons et ces danses-là pour le public.
L'autre partie de mon inquiétude, c'est comment interpréter le message véhiculé par chaque joueur si vous n'êtes pas initié. Parce que c'est avant tout des tam-tams qui portent des messages.
Oui, là tu as raison. La preuve, je m'amuse ici à décliner des noms qui ne sont pas en fait de moi. Quand je dis que je m'appelle Sosu Vifambolo Adjalamaito, c'est les noms et surnoms de mon papa qu'on joue dans Atopani. Quand je dis encore que je m'appelle Gaou Gatragasi Gegledo, on peut le jouer également en Atopani. Et quand je remonte à mon aïeul, Toto Asignou Avo Danou Domodomozan. Alors, c'est des choses qu'on peut jouer dans les tam-tam parlants. Et j'avoue que quand je vais souvent au village, quand on joue ça là, je me tais parce que j'ai mes grands frères qui sont là.
Oui, ça, en réalité, ce sont des artistes qui viennent faire une prestation pour relever quand même que nos traditions regorgent de sonorités que si on ne vous apprend pas, si on ne vous explique pas, vous ne pourrez jamais comprendre les idées derrière tout cela. Donc, je crois que c'est un peu de la modernité qu'on va apporter.
Il faut tout faire pour inviter Isidore au spectacle.
Je ne suis pas initié en la matière.
Non, pour aller écouter.
Seulement écouter, je ne saurais rien dire et apprécier. Oh. Sauf qu'il ne faut pas confondre l'ésotérisme et l'ésotérisme.
Merci.
Est-ce que Akofin avait fait aujourd'hui, il est à ce niveau. Je lui en ai parlé.
Nous restons, nous, sous le terrain profane des artistes. Et nous continuons avec un autre A qui va rassurer sûrement Isidore. Il s'agit de slam, avec deux jeunes Togolais qui viennent de participer à un concours au Gabon. Ils en sont revenus lauréats, Eric.
Ils ont remporté deux trophées exceptionnels pour le Togo. Donc, hier, ils étaient rentrés à Lomé et ils ont dit deux mots devant le public qui les attendait. Et il faut reconnaître que nous avons un ambassadeur du slam qui est Caporal Louis Dom, qui a accompagné ces jeunes-là au Gabon pour leur prestation. Et donc, je crois que le public gabonais a apprécié et le jury également. Et ça leur a donné ces deux prix pour internationaux pour le Togo.
Merci.
Vraiment, félicitations à eux.
Merci. Nous continuons avec l'école et Komlan Doji Kokoroko. On le connaît, il n'a pas sa langue dans la bouche. Il n'a pas toujours son stylo dans sa poche. Il écrit, il interpelle. Et depuis quelques jours, il a sorti une liste portant sur les écoles privées ou les établissements privés qui ne sont pas réglementés, qui n'ont pas reçu des agréments du dit ministère. Vous nous en parlez, notamment l'Éveil de la Nation, Sam. Quand ton journal écrit à la page 6 que c'est un total de 295 établissements privés scolaires clandestins qui seront fermés à la prochaine rentrée, et Actu Express nous donne même la liste des écoles du Grand Lomé. 295 établissements scolaires sommés de fermer leurs portes au plan national, 70 qui relèvent de la direction régionale du Grand Lomé. Et cette information suscite beaucoup de commentaires ici et là. Et Sam Diobo ?
Oui, les citoyens togolais, chacun y va de son commentaire après la décision du ministre Kokoroko de suspendre les presque 300 établissements scolaires compte tenu de certains critères sur lesquels la commission qui a audité ces établissements a dû travailler. Parce que, vous savez, il y a des plaintes qui fusent de partout pour dire que l'école, du moins c'est l'école togolaise, le niveau de l'école togolaise est en baisse au jour le jour. Et le procès qu'on fait à ces établissements privés, justement, c'est que parmi eux, certains donnent des formations au rabais. Quand on voit même la qualité des enseignants, les infrastructures d'accueil des élèves, les conditions ne sont pas réunies pour que les élèves puissent sortir de ces établissements-là nantis de beaucoup de connaissances. Donc, à l'issue de cette étude, le ministère a pu sortir la liste complète des 295 établissements. Mais au même moment où les gens disent que c'est un ménage qui méritait d'être fait au sein de ces établissements, en même temps, il y a d'autres qui se posent la question de savoir les élèves ou les enfants qui fréquentent ces établissements, ils vont devenir quoi à la rentrée prochaine? Est-ce que le nombre pléthorique des élèves dans les établissements publics que l'on redoutait, on ne risque pas de vivre le même scénario avec des enfants qui se retrouvent 3, 4 ou 5 par banc? Il y a des questions qui sont posées et le ministre Kokoroko, je pense qu'il peut pousser la réflexion loin et voir parmi ces établissements si certains peuvent se conformer à la réglementation, avoir leur agrément avant la rentrée et voir si on peut même envoyer une équipe d'inspection pour inspecter les lieux, si les gens remplissent des conditions, voir si dans le lot, certains établissements peuvent être quand même récupérés.
À cette préoccupation, on peut également ajouter celle qui porte sur le sort du personnel d'encadrement scolaire administratif de ces écoles. Si on les ferme, ces secrétaires, ces comptables, ces enseignants, que deviennent-ils? Il semble même que certains promoteurs de ces écoles auraient fait des prêts ou des crédits bancaires au sein des banques et établissements financiers. Comment vont-ils faire face à cela? That is the question. Mais Isidore, les raisons évoquées par Kokoroko pour suspendre ces écoles, c'est que ce sont des écoles qui ne répondent pas aux normes de l'éducation. Certaines même ne se sont même pas déclarées au ministère, pour ne pas dire elles ne sont pas en règle avec les normes. Et puis également les enseignants que ces écoles ont recruté et emploient n'ont pas toujours le niveau initial. Il n'y a pas de recyclage permanent. Voilà entre autres les raisons que la commission a notées et qui fonde Kokoroko à publier cette liste d'écoles clandestines.
Non, il faut encourager Kokoroko dans ses actions. C'est très important. Et on ne peut pas se plaindre de la baisse du niveau et autoriser ou se permettre certaines choses. Bon, le problème qui se pose actuellement, il y a certains établissements scolaires qui avaient des agréments pour la maternelle. Bon, préscolaire. Aujourd'hui, ça n'en parle plus de maternelle, c'est préscolaire. Il faut que je puisse m'en
mettre. Les termes exacts.
Oui, habitué. Préscolaire. Et qui se sont rapidement mis à créer de l'école primaire. Et sont allés secondaire, les collèges. Donc, maintenant, quand on vient, on inspecte. On contrôle si les différents niveaux répondent aux normes requises. Si tel n'est pas le cas, on te dit de fermer. C'est là le problème. Il y a des établissements de renom quand on était tout petit et qui faisaient la fierté des Nanabens à côté à Koué. Quand vous parlez de cet établissement aujourd'hui, quand on dit qu'on va fermer, ça me pose beaucoup de problèmes. À Messica, ça me pose beaucoup de problèmes. Anna Maria, ça me pose beaucoup de problèmes. Je ne vais pas. Si j'ai pris le
poste. De toute façon, tu as publié la liste des écoles du Grand Lomé dans ton journal.
Mais quand on en parle, il y a certains établissements, c'est peut-être la pré-maternelle qu'on demande de fermer ou on demande de fermer
le
primaire et ainsi de suite. Voilà ce à quoi nous vous invitons. Nos parents, les parents d'élèves, à pouvoir lire et comprendre. Ce n'est pas une punition. Il y a certaines écoles, certains établissements, et on ne les ferme pas. Mais on leur demande tout simplement, vous n'avez pas répondu aux critères de pouvoir faire
dispenser l'enseignement au niveau que vous voulez servir.
Et la plupart, aujourd'hui, ne peuvent plus répondre. Puisque j'ai eu à m'entretenir avec le DRH hier,
le directeur des ressources humaines,
m'a dit que bon, ce qu'on a constaté, quand ils ont fait la déclaration pour avoir l'agrément, Bon, peut-être c'est sur 2 lots, 3 lots, 4 lots. Après, ils ont vendu une partie et les enfants n'ont plus de cours de récréation.
Oui.
Mais comment on va faire ça? Est-ce qu'on va demander aux voisins de déguerpir, de casser pour avoir ne serait-ce qu'une cour de récréation? Il n'y a même pas, pour la plupart, ils n'ont pas d'air de sport de masse.
Mm-hmm.
Et ils sont obligés de faire, les enfants sont obligés de faire les sports de masse dans la rue, avec tous les risques que ça comporte.
Autrement dit, c'est des raisons d'ordre sécuritaire, hein,
et aussi
des élèves, des enseignants, et également des raisons d'ordre pédagogique
parce que
qui ont conduit...
Certains promoteurs se sont permis de faire recours à leurs parents qui n'ont aucun niveau, qui sont devenus des enseignants dans telle ou telle matière. Et c'est là même le gros problème. Parce que d'ici la rentrée, moi je dis qu'ils sont sommés, si vous rentrez dans l'ordre et que vous demandez à ce qu'on vienne vous inspecter ou vous contrôler,
mm-hmm.
on peut vous demander.
C'est ce que Sam disait tantôt. Oui. Dieu merci, nous sommes en début juillet. Peut-être que certains promoteurs ont le mois de juillet et août pour régulariser leur situation.
Imaginez certains, en commençant, ils ont comment appelle-t-on, le rez-de-chaussée et sans savoir quelle la fondation, ben, ils ont échelonné, ils ont mis des étages,
mm-hmm.
qui ne peuvent plus répondre et il y a des risques de
d'écroulement. Raison de sécurité, voilà, de physique, sécurité. De sécurité. Donc, pédagogique.
Moi, je soutiens
oui.
Cocoroco, je ne suis pas de cette nature à soutenir souvent les actions d'un gouvernement,
mm-hmm.
mais si c'est bon,
c'est les faits qui parlent.
C'est les faits qui parlent.
Eric, avant ces écoles privées, Cocoroco a commencé d'abord par les édiles, mm-hmm. les écoles d'initiative locale. Il a commencé par là. Il est allé même jusqu'à certaines écoles hein, au public, mais qui avaient été créées lors des campagnes politiques et qui ne répondaient pas à la carte scolaire. Cocoroco a fait passer la discipline par là aussi. Il faut le rappeler.
Oui, on en avait parlé ici. Je crois que Cocoroco est dans une logique d'assainir un peu le secteur de l'enseignement dans notre pays. Vous vous rappelez également qu'en octobre, l'année dernière, en octobre 2022, il y avait une note de service qui demandait à tous les établissements privés d'apporter leur permis de construire et les caractéristiques des bâtiments scolaires.
Mm-hmm.
Et donc, en janvier 2023, il y a eu également un rappel aux établissements qui n'avaient pas pu déposer ces documents requis jusqu'à la fin de l'année 2022. Et on leur avait donné un délai qui était le 31 janvier 2023. Ce que l'on reproche aujourd'hui à ces établissements qui sont qualifiés d'écoles clandestines, c'est qu'en fait, il y a une procédure pour créer une école privée dans notre pays. D'abord, on dit, hein, la loi dit qu'il faut avoir la majorité 21 ans minimum et déposer une demande au niveau de la préfecture dans laquelle l'on vit, où l'on veut implanter l'école. Après, maintenant, les démarches au niveau du ministère de l'enseignement, vous allez prendre une autorisation d'installation. Après, vous avez une installation une installation de dispenser les cours. Hein, vous avez l'installation, vous avez l'autorisation de dispenser les cours. Et là, lorsque vous finissez tout ça, c'est que l'on vous autorise à ouvrir l'école. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que après chaque 2 ans, il faut renouveler. Avant, c'était 5 ans dans l'ancienne loi. c'était 5 ans, je crois que maintenant c'est 2 ans. Il faut retourner vers le ministère pour avoir une nouvelle autorisation de continuer. Mais pendant qu'on demandait aux gens de déposer leur autorisation, leur permis de construire et tout ça, mais il y a certains, quand ils ont eu l'autorisation de dispenser les cours, ils ne sont plus retournés vers le ministère. Mmh. Et ils ont continué. Malheureusement, avec les nouvelles réformes où on demandait aux enseignants d'avoir quand même leur certificat d'aptitude professionnelle pour pouvoir dispenser les cours, les écoles privées là recrutent. Enfin, de partout. Hein, il suffit que vous soyez dans un domaine donné. Je ne dis pas que ce n'est pas des gens qui n'ont pas de diplôme. Mais si vous n'avez pas la pédagogie, vous ne pouvez pas enseigner tout simplement. Donc, je crois que c'est par rapport à cette situation que le ministre Kokoroko, avec son équipe technique, ont fait le tri et ont décidé de suspendre pour la rentrée prochaine 2023-2024, ces 295 écoles dites écoles clandestines.
Et celles qui se seront fait régulariser pourront de nouveau ouvrir leurs portes.
Ça, de toutes les façons. Ce que Kokoroko a fait au niveau des écoles publiques, c'est qu'il y a une norme à respecter. Et, par exemple, on dit dans les salles de classe, il faut 30 élèves.
Mm-hmm. Mais nous en avons parlé temps.
Maintenant, ce qui se passe avec les écoles privées, c'est que des gens dépassent même ce quota-là. Mm-hmm. Et donc, ça crée déjà un problème pour l'enseignant. Or, on a dit, il faut respecter les normes. Il y a tout ça là. Mais je fais un petit calcul.
On va terminer par là.
Oui, on va terminer par là. Si j'ai dans mon établissement 6 classes de 30 élèves, ça veut dire que c'est 180 élèves. Mm-hmm. Maintenant, si on ferme 295 établissements, je suis dans les environs de 6 000 à 8 000 enfants qui doivent désormais chercher des établissements pour pouvoir fréquenter à la rentrée prochaine. Est-ce qu'il y a quand même ce potentiel, parce que les écoles
c'est une préoccupation privées, qui est que Sam privées, a évoqué, mais on peut rappeler, à ce niveau on peut rappeler à Kokoroko et à tout le monde enseignant, la chanson de Daouda: si tu vois le margouya qui veut se coudre un pantalon, c'est qu'il a trouvé une solution pour sa queue. Sûrement que Kokoroko a anticipé en trouvant une solution pour les élèves de ces 295 écoles qui seraient fermées. Nous allons parler
quand tu dis que sûrement que le ministre a trouvé une solution, il aurait pu brandir la solution avant d'avancer les sanctions. Parce que, vous savez, il y a un déficit en termes d'infrastructures au niveau des écoles. Mm-hmm. Que c'est une réalité. Jusque-là, il y a certaines localités où les enfants sont obligés de parcourir un certain nombre de kilomètres pour trouver peut-être un lycée ou un collège d'enseignement général. Et parfois, c'est le privé qui vient en appui au public pour quand même essayer de résorber ce gap-là ou ce déficit. Mais aujourd'hui, plus de 6 000, si on se base sur le calcul fait par Eric, les plus de 6 000 élèves qui vont se retrouver dans la rue, je pense qu'il y a un problème. Et ces établissements, moi, je pense que le ministre ne doit pas fermer la porte des négociations. Il doit toujours laisser une fenêtre entrouverte pour que ces établissements-là, parmi eux, ceux qui pourront se conformer, ceux qui pourront faire au moins un pas vers la réglementation, vers la régularisation, qu'on puisse les rouvrir pour que...
Vivement. Juste rappeler que ce que nous disons aujourd'hui pour les écoles privées, dites clandestines, il y a un an, nous faisions le même débat pour les écoles supérieures, privées, qui avaient été également sommées de fermer leurs portes le temps de se conformer à la norme.
Le problème, c'est quoi? Il y a des gens qui opèrent de façon clandestine. Et quand l'occasion se présentait pour les candidats, ils sous-traitent avec des établissements qui ont des agréments. ça là, on ne peut pas l'autoriser. Mmh. Il y a des écoles de rue, de quartier, qui sont confinées. Les gens sont sur, dans pratiquement une maison d'Emilo, et créent leurs écoles. Ce n'est pas normal. Ça, on ne peut pas l'admettre.
Non, l'ordre, la 18, doivent passer
on
là.
On ne peut pas l'admettre.
Maintenant, cependant, quel est le sort des élèves de ces écoles?
Cependant, oui. Et là où nous allons inviter M. Kokoroko, ou le professeur Kokoroko, ou le ministre, a fait preuve de, comment dirais-je, d'ingéniosité, c'est comment contenir ces masses d'élèves. Puisqu'il y a, à ce que je sache, 4500 établissements qui ont été contrôlés. Mm-hmm. Et c'est seulement 295
qui sont sommés de suspendre pour le moment.
De suspendre. Et selon les informations, la décision est irrévocable.
Ça, nous prenons acte,
mais
c'est le sort des élèves, hein, ouais, et peut-être également du personnel administratif et pédagogique de ces écoles-là. C'est ce que nous évoquons. Mais nous disons, c'est un processus.
Ça, il y a aujourd'hui, des... oui, le Togo est dans une logique. Hein.
Je suis d'accord. Nous disons la même chose.
Gouvernemental 2025. Et il y a des normes.
Arrête. Il y a des normes. Mais il faut assainir.
Pourquoi on veut assainir
l'état de droit?
Pourquoi c'est seulement la presse privée qu'on veut assainir et on ne veut pas assainir les autres secteurs?
Bon, la presse privée, s'il vous plaît, aujourd'hui, le débat, c'est...
C'est ça le problème.
Recentrons le débat.
Non.
C'est les
il y a beaucoup de points qu'il faut assainir. Les écoles, les églises...
Justement, aujourd'hui, nous parlons des écoles. Prochainement,
on va parler de la presse.
Et je rappelle qu'avant les écoles
plein de
secteurs, hein, le ministère de Kokoroko a commencé par les édiles, les écoles d'initiative locale. Et même des écoles publiques, hein, qui avaient été créées dans des périodes de campagne pour faire plaisir à celui-ci. Ces écoles ne répondaient pas à la norme, à la carte scolaire. Il les a fait fermer ou bien a demandé de ce jeune. Oui. Et la même chose a été faite, hein, pour les instituts et les écoles du supérieur. Ouais. Ça veut dire que c'est une certaine discipline qui est en marche, et dans un état de droit, nul n'est en principe ignoré la loi.
Le cafouillage a commencé avec Agbobi.
Mais nous ne faisons pas la promotion.
Non.
En fait, loin de nous, l'idée de faire la promotion de ces écoles clandestines.
Kokoroko le fait même dans son ministère. La semaine passée, nous parlions du CEPD, dont un arrêté a fuité dans les médias et sur les réseaux, qui laissait entendre que le CEPD, à partir de la rentrée prochaine, deviendrait le CEP. Et tout le monde a vu, vous avez tous vu cet arrêté bien signé Kokoroko avec ampliation de son secrétaire général. Et puis dans les jours à venir, dans le jour suivant, on a vu cette interpellation que le ministre Kokoroko a adressée à son secrétaire général de s'expliquer comment cet arrêté qui n'était qu'en projet s'est retrouvé dans le public.
Ouais.
Ça veut dire que l'assainissement passe jusqu'au cabinet même du professeur Kokoroko.
Oui, et Eric, c'est un peu partout. C'est
partout.
Vous savez, même quand nous disons que les journalistes ne sont pas des devins et que les informations...
il y a toujours des lanceurs d'alerte.
Voilà, donc... Kokoroko n'est pas sans connaître cela. Sauf que ce qui s'est passé la dernière fois, il paraît même que l'arrêté, ce qui
a fuité dans le
public, n'était pas le bon arrêté. Que ça a été même manipulé. C'est ça qui est encore grave. Avec la signature, le cachet du ministre Kokoroko en dessous. Et donc, je crois que dans presque tous les secteurs, il y a cette situation qu'il faut voir. Mais, bon, vous savez, l'information...
Il est 11h36.
Il y a un problème avec l'usage que les gens font des réseaux sociaux, surtout dans l'administration publique. Parfois, vous allez voir, il y a une décision importante qui est prise à l'encontre de quelqu'un, mais que vous retrouvez, peut-être pendant ce temps, la personne même n'a pas encore été notifiée, mais vous retrouvez la décision sur les réseaux sociaux. Mais, ça se passe dans plusieurs institutions. Moi, je pense que les sanctions ou la demande d'explication que le ministre Kokoroko a adressée à son secrétaire général doit faire des émules dans d'autres ministères et dans d'autres institutions.
Je voulais renchérir en disant que l'article 497 qu'on nous applique doit être appliqué aussi à ces gens-là. Pourquoi on nous demande de ne pas faire usage de ces réseaux sociaux?
Il y a une décision importante qui n'est pas encore notifiée. Pour nous, puis on retrouve ça sur les réseaux.
Merci. Nous allons continuer justement. La transition est bien faite avec la presse, avec notre ami et confrère Ferdinand Médecin Haïté, qui a dû quitter le pays pour des raisons que nous savons déjà. Mais la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue quelque part la pierre d'angle. Ferdinand, qui vient d'être primé par le comité pour la protection des journalistes, avec d'autres confrères du Mexique, de l'Inde et de la Géorgie. Nous en parlions hier, mais je reviens là-dessus parce que Actu Express en parle de nouveau avec ce titre. Ferdinand Haïté, lauréat du prix international de la liberté de la presse 2023. Je rappelle que PPT a sorti même un communiqué pour saluer ce prix décerné
et s'en réjouir, parce que c'est l'honneur de la presse togolaise. C'est la première fois que la presse togolaise a été honorée à ce degré. Personne n'a pu obtenir ce prix. Et je vous rappelle que depuis, ça fait 33 ans qu'on décernait ce prix aux journalistes, mais il y a 20 Africains qui ont été
primés.
Donc ça fait 16 qui ont été primés, les 4 à venir. Bon, enfin, il y a 19 qui ont été primés, et parmi lesquels se trouvent, ne serait-ce que au niveau de l'Afrique francophone, 5. Il y a d'abord la Côte d'Ivoire et le Niger, la RDC et le Cameroun. Donc c'est Ferdinand qui est le cinquième journaliste à être primé
de l'Afrique francophone.
Donc ce n'est pas quelque chose de rien. Il faut le saluer. Et là, je me dis que bon, est-ce que c'est devenu, comment dirais-je, comment nos autorités vont accueillir cette distinction? Et je fais remarquer que la plupart du temps, quand on distingue quelqu'un dans un pays, cela suppose ou que c'est avéré que la liberté de la presse est en danger dans ce pays. Et ça se transpose même dans la déclaration ou l'interview que Ferdinand a accordé à RFI. Vous lisez, vous avez dit que bon, aujourd'hui, ce prix permettra de faire le zoom sur les entraves à la liberté de la presse au Togo, qu'aujourd'hui n'est plus... Non, nous sommes dans l'autocensure. Pour un oui ou un peu non, mais vous vous retrouverez
justice. Nous essayons quand même au club de la presse, dans nombre de rédactions, faire l'effort d'informer sur tous les angles.
Je lance encore l'appel. Si 4 ou 3 articles vont créer des problèmes au Togo, pourquoi ne pas les réécrire?
Merci, félicitations. Avançons, s'il te plaît. Ouais,
je t'interpelle parce que tu étais là, c'était toi le
Débat est d'actualité. Le modérateur. Nous ne manquons aucune occasion de nous interpeller nous-mêmes, d'interpeller les décideurs, le gouvernement, l'Assemblée nationale, toutes les personnes de bonne volonté, à ce que la liberté de presse soit vraiment vivace.
La question,
je rappelle qu'il y a un projet même dans ce sens que l'Observatoire togolais des médias pilote. Vous étiez même en atelier il y a quelques jours pour continuer à réfléchir.
Ne faisons pas rêver les gens. La balle est dans notre camp. Ayons le courage de le dire. Nous ne saisissons pas la balle au bon. Parce que si aujourd'hui, il y a les ministres Ayouadan qui sont prêts à nous accompagner, et Trimois qui sont prêts à nous accompagner, et que nous traînons les pas, mais quand ils ne seront plus au gouvernement, parce que c'est un contrat à durée déterminée, c'est pas CDI. Saisissons l'opportunité.
Merci, merci. Nous avons évolué avec un petit moment au Sénégal. Le Sénégal qui a quelques 8 mois, si je ne m'abuse, de leur prochaine élection présidentielle, avec toute la tension, toute la polémique dans ce pays que nous ne connaissons que trop bien. Macky Sall soupçonné de ceci et de cela. Hier, il s'est adressé à ses compatriotes et le constat depuis, c'est que en quelques phrases, le président sénégalais a réussi à redorer son blason et depuis hier, il ne fait que récolter des satisfecits. Ici et là, nous avons fait un petit cocktail de morceaux choisis de ce discours que nous vous proposons.
Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. En effet, depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat juridique a été définitivement tranché par la décision du Conseil constitutionnel numéro 1, C-2016, du 12 février 2016. Je sais que cette décision de ne pas être candidat surprendra tous ceux et celles nombreux dont je connais l'admiration, la confiance et la fidélité sincère. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouve de plus en plus ses marques. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente à parler avant l'heure, car mes priorités portaient surtout sur la gestion d'un pays, d'une équipe gouvernementale cohérente et engagée dans l'action pour l'émergence, surtout dans un contexte socio-économique difficile et incertain. Contrairement donc aux rumeurs qui m'attribuaient une nouvelle ambition présidentielle, je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs. C'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. C'est cela que j'avais dit et c'est cela que je réaffirme ce soir. J'ai un profond respect pour les Sénégalais et les Sénégalaises qui m'ont lu et entendu. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commande de préserver ma dignité et ma parole.
Voilà Sam Djobo, Eric Johnson et Isidore Akolo, un extrait des propos tenus hier par Macky Sall. Vos réactions, Sam?
Oui, Macky Sall, il faut le reconnaître, a pris de la hauteur et il a pris justement tout le monde de court parce qu'il y avait des procès en sorcellerie qui lui étaient faits comme quoi il voulait briguer à une troisième candidature. Et le monsieur, il vient de... Les gens l'ont écouté. Il n'avait jamais dit nulle part qu'il devrait être candidat. Mais sauf que son mutisme, à un moment donné, lui donnait beaucoup plus de la graine à moudre à ceux qui lui font ce procès-là aujourd'hui. Mais en annonçant à la 21e minute de son allocution qu'il ne sera pas candidat à l'élection de février 2024, Macky Sall sort par la grande porte. Il a d'abord essayé de regretter tout ce qui s'est passé, les violences et autres, qui n'avaient justement rien à voir intrinsèquement avec sa candidature en 2024, mais beaucoup plus avec le procès d'Ousmane Sanko. Et les gens estiment que c'est justement parce que il veut briguer à une troisième mandature qu'il embastille son principal opposant. Mais aujourd'hui, et il a la faveur des pronostics, il est sorti par la grande porte, il a pris de la hauteur en annonçant que ce que lui l'avait dit et écrit, il ne change rien en cela. Mais la déception sera grande dans le rang de ses partisans parce que les gens avaient tendance à penser que ce qui était, vous savez, les philosophes disent vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. En Côte d'Ivoire, il y a Alassane Ouattara, le cas le plus proche d'eux, qui a plus de 70 ans, a fait un passage en force pour obtenir un troisième mandat.
Après qu'il ait fait également une déclaration publique sur honneur.
Donc, la différence entre Macky Sall et Alassane Ouattara, c'est que Macky Sall, il est sensible. Et les observateurs disent qu'il a élevé le niveau du débat au niveau du Sénégal en termes de réalisation, en termes de démocratie, et que le seul fait d'ambitionner une troisième candidature pouvait tracer une croix rouge sur toutes les réalisations qu'il a faites. Mais il a reçu, quoi qu'on dise, il a reçu les pressions à l'interne comme à l'externe, et il a pu céder, et aujourd'hui, tout est à son honneur.
Alors, Isidore, depuis hier, c'est des satisfaits, des félicitations ici et là, mais Macky Sall a rappelé que la Constitution lui donnait encore la possibilité de se représenter, mais il se rappelle qu'il avait dit que son mandat de 2019 était le second et dernier, mais malgré ça, il a dit qu'il a dû longuement réfléchir avant d'annoncer sa décision hier.
Ça veut tout dire, et je me dis qu'il a été habile en communication politique et en communication de crise. Et tout ce qu'il a déclaré, c'est à son corps défendant. On attend de voir les jours à venir si Macky Sall veut vraiment quitter le pouvoir ou placer quelqu'un vaille que vaille. Moi, je me dis que bon, il n'était pas dans cette logique, mais il est contraint parce qu'il a trouvé, comme le disaient les Ivoiriens, un garçon devant lui. Et quand vous scrutez, il est obligé de le faire pour invalider la candidature de Sanko.
Ousmane.
Parce qu'il a dit qu'il va veiller à ce que les décisions de justice soient appliquées.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, mais il faut arrêter Sanko. Parce que c'est lui qui l'a foutu la merde. C'est en cela que je me dis que bon, c'est pas sérieux ce qu'il est en train de faire. C'est pas sérieux. Ben, si il avait cette intention, il aurait pu faire comme le Nigérien et qui a préparé son successeur. Quels sont de fait aujourd'hui? C'est pas comment le parti de Macky Sall va se
comporter.
La PR va se comporter parce que personne n'émergeait. Il a fait ombrage à tout le monde. C'est-à-dire qu'il a des ambitions. Mais je le félicite.
Merci.
Pour avoir eu ce courage qui va encore peut-être faire tache d'huile dans nos régions, dans notre région, où certains veulent encore briguer un cinquième mandat, disant que c'est le deuxième mandat.
Merci. Jusqu'à preuve du contraire, nous prenons acte des déclarations de Macky Sall. Eric, on va terminer par toi. Peut-être que si Macky Sall avait annoncé hier qu'il serait candidat, peut-être que Dakar serait encore aujourd'hui à feu et à sang, mais tout le Sénégal est calme aujourd'hui. Ça veut dire que c'est quand même une bonne information que le Sénégal attendait dans ce contexte que nous connaissons et dans lequel Macky Sall s'est prononcé hier.
Oui, ça, nous sommes en démocratie. C'est nous qui avons accepté la démocratie comme modèle de gouvernance. Et je pense que tout le procès qui est fait à Macky Sall est franchement un procès franchement unique, parce que dit la Constitution? Est-ce que la Constitution sénégalaise aujourd'hui interdit à Macky Sall de se représenter? Non. Si Macky Sall se disait ok, quelle que soit la situation, je vais être candidat, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de tension. On ne peut pas imaginer ce qui peut se passer, puisque déjà hier, avant son discours, il y a Sanko qui a appelé les gens à se mobiliser déjà. Et dès que Macky Sall prononcerait un discours allant dans le sens où
il a désarmé.
Voilà. Non, pas forcément.
Il a désarmé.
Pas forcément. Faut pas aller à cette conclusion, Isidore. Je pense que nous acceptons la démocratie. Nous devons respecter les préceptes démocratiques. Mm-hmm. Tout le monde est d'avis que des gens ont commencé très tôt à faire un procès à Macky Sall, qu'il a l'intention de faire un troisième
mandat. Oui, Eric, ce n'est pas des intentions.
Peut-être que la Constitution lui en donnait encore une possibilité. Mais lui-même, comme il a rappelé, il s'est engagé déjà en 2019 à ce que ce mandat soit le dernier. Alors, entre l'ouverture que la Constitution lui donnerait et sa parole d'honneur. Heureusement, il a choisi le code d'honneur en rappelant son engagement.
Tu as déjà vu un président qui dit vous m'élisez pour deux mandats. Non, il demande toujours un mandat. Et maintenant, chemin faisant, il décide d'aller encore. Regardez le cas du Bénin.
Oui, sauf que Macky Sall lui-même s'était déjà engagé en 2019.
Ce que je veux dire, c'est que au Bénin, par exemple.
Non, laissons le Bénin, parlons du Sénégal.
On ne peut pas laisser le Bénin.
Non.
Nous sommes dans une analyse politique.
Et alors?
Il faut lire les choses.
Parlons du Sénégal. Parlons du Sénégal. Nous parlerons du Bénin en temps opportun.
Ce que je veux dire, au fait, c'est quoi? C'est que Talon avait dit aux Béninois qu'il allait faire un mandat et partir. Mais c'est également une parole donnée. Mais ici, nous sommes dans un cas où il y a eu des émeutes, il y a eu des tueries. Et Macky Sall a vu venir encore cela. C'est pour ça qu'il s'est rétracté. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie de le faire.
Merci beaucoup. Donc,
il est 11h53. Non, mais on ne peut pas parler de Macky Sall sans parler de Sanko. Parce qu'aujourd'hui, Sanko, son discours, il y a quoi dedans? Il était un partisan de anti-troisième mandat de Macky Sall. Aujourd'hui, que Macky Sall n'est pas candidat, il reste quoi comme argument? Ça dit que là où.
C'est le discours de Macky Sall que nous commentons.
Mais ils sont. C'est un binôme.
Peut-être que prochainement, nous allons inscrire également.
Je voulais faire remarquer que.
S'il vous plaît.
Talent.
Non, nous parlons d'État indépendant souverain. Tenons-nous aux déclarations des gens. Le sujet que
les gens ont dit que, si c'est pour les mandats, il faut faire deux ou trois mandats. Ils en sont aujourd'hui.
Quel gens?
Suis-moi, regarde.
C'est toi qui as commencé, bien, va au bout. Merci, nous continuons avec des informations économiques, avec ce que nous savons déjà. À savoir ces rencontres qui se sont ouvertes chez nous à Lomé hier, que nous rappelle le messager par exemple. Lomé Capital, des assemblées générales du Fonds Africa 50 et Infra for Africa Forum. Le messager rappelle que c'est la première édition du Forum Infra pour l'Afrique. Et l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Africa 50 sous le haut patronage de Fort Nyasimbe, donc, qui a présidé la cérémonie d'ouverture hier. Et donc, l'évêque de la nation rappelle un extrait quand Fort Nyasimbe disait « Sans route, sans pont, sans port, sans aéroport, sans hôpital, sans centrale électrique, etc. » Il n'y a évidemment pas de développement possible. Et puis, autre journal, l'Économiste, qui revient lui aussi sur les 5 remarques du Fort Nyasimbe à l'ouverture de ses assises hier. C'est l'actualité, nous la laissons courir. Et nous revenons sur...
On ne peut pas commenter l'actualité là.
C'est l'actualité en cours, on verra la fin. Amen. Mais je voudrais qu'on revienne un peu sur un article... du confrère L'Union, paru le vendredi dernier. Ça nous intéresse parce que l'article porte sur les participations de l'État togolais dans le capital des sociétés minières. Eric, l'article révèle une contradiction. L'État qui a un pourcentage dans le capital de certaines sociétés, alors que ces sociétés, dans leur dernier rapport, n'en font pas cas. Ou bien revoit plutôt l'actionnariat de l'État
à
la baisse.
Oui, justement, il y a une loi qui encadre le secteur minier et qui dit que l'État est actionnaire à hauteur de 10% dans chaque industrie extractive.
Oui.
Mais malheureusement, dans le rapport, ce rapport qui a eu tellement du temps à venir, après des sanctions et tout ça contre le Togo, mais finalement, on a eu des suspensions.
Mais suspensions levées.
Levées.
Non, ce n'est pas levé.
Si.
Ce n'est pas du tout levé. Ce n'est pas du tout levé.
Laisse-moi terminer. Revenons sur ce sujet d'abord.
Et donc, dans ce rapport, on a vu que certaines sociétés extractives ont dit que l'État est actionnaire à 1%, 5%, voire même 0%. Alors, il y a une direction qui doit normalement s'occuper des participations de l'État dans toutes ces industries-là. Mais que fait cette direction? Le rapporteur a demandé expressément, c'est dans les recommandations, à cette direction-là de bien voir ce, c'est des niches de recettes que l'État est en train de perdre comme ça. Ça veut dire que si l'État est actionnaire à 10%, l'État doit participer au conseil d'administration de ces sociétés-là. Malheureusement, ça ne se fait pas. Ça veut dire que ce sont ces sociétés-là qui viennent faire un rapport pour dire, voilà les rapports financiers surtout, voilà ce que nous avons fait et on accepte. Alors qu'il faudrait quand même qu'il y ait les yeux de l'État dans ces structures-là. Il y a une nouvelle loi qui est dans les bacs de l'Assemblée nationale qui monte même ce taux-là à 30% désormais. On n'arrive pas à prendre 10%. Est-ce qu'on pourrait arriver à avoir les 30%?
En tout cas, il y a des sociétés que l'article cite nommément, à savoir Granuit Togo, ACI et Scan Togo. Dans ces sociétés, l'État aurait dû avoir au moins 10% de l'actionnariat, mais ces sociétés réduisent la part du Togo à 1.
Je me
réfère à l'article de l'Union.
Qui se base sur une étude.
Oui. J'ai aussi le rapport.
Je
l'ai lu. Oui. Est-ce que c'est les sociétés qui réduisent ou les financements sont occultes? C'est là, il faut creuser. Puisque quand c'est au niveau des conciliations, des rapports, qu'on constate que l'État qui devait investir ou participer à 10%,
L'État ne va pas investir, l'État
devrait participer.
Parce que c'est l'État qui remet le site. Dès que l'État remet le site, que tu sois privé ou public ou international.
Il y a des risunas reversés à l'État.
Non, c'est-à-dire que dès que tu commences, l'État est actionnaire dans la société
automatique,
à 10%. Automatique, c'est ce que dit la loi.
Mais et alors, c'est combien? Est-ce que c'est la rente qui représente les 10%? Comprenons-nous.
Oui.
Est-ce que c'est parce que l'État a cédé que l'État a la part de 10%?
Je pense que chacun a sa
version
de la loi.
Écoutez. Oui, maintenant, c'est pourquoi je parle d'occultisme dans ce cas. Si la loi dit ça, et que maintenant, ces sociétés-là disent que, bon, l'État, la part de l'État, parce que c'est des actionnaires, avant tout, ne représente que 1% ou 0% au lieu de 10%, mais allons-y comprendre quelque chose. Ce n'est pas la société qui a diminué la part de l'État.
C'est qui alors?
Mais ce sont des individus qu'il faut rechercher. Parce que, oui, c'est là même le travail que nous devons faire.
Si la loi dit que l'État a de droit
10%
dans l'actionnariat, alors comment est-ce que les sociétés, dans leur rapport, déclare que l'État a 1% voire 0%.
Non, mais moi je pense que ce qui est important à faire, il faut que l'État reprenne ce dossier. Parce qu'on a vu des présidents, en Guinée par exemple, en Côte d'Ivoire, où les gens, quand les présidents sont arrivés, ils ont obligé les gens qui exploitent les mines là, ils ont revu le contrat et la part de l'État à la hausse.
Oui.
Et ici, non, attends, il faut garder ton calme. Quand les gens parlent, calme-toi. C'est-à-dire que ici, on ne peut pas comprendre que l'État soit actionnaire à 10% et que du jour au lendemain, on nous dise qu'on est à 1%. Le ministère de l'énergie et des mines, je crois que la responsabilité incombe à ce ministère qui doit, au besoin même, retirer le contrat chez ces gens-là qui exploitent les mines et les remettre à d'autres personnes, parce qu'on ne peut pas exploiter nos minerais, nos mines, et que nous, on soit déficitaires et que les gens s'enrichissent. Parce que le plus souvent, quand on parle de Scan Togo Mine, ce n'est pas des Togolais. Le plus souvent, c'est des étrangers. Alors, s'ils sont venus ici pour se sucrer sur le dos des Togolais, et dans ces localités, parfois même, l'eau même potable pour boire là, c'est des problèmes. À Otoué, tu en sais quelque chose? Ça se fait là, à Otoué. On voit les bidons jaunes là-bas.
De l'eau jaune.
Bien sûr. À quoi je nous convie, c'est de fouiner, voir qui se sont accaparés de cette part.
En attendant, on lance des alertes.
Non, en attendant, on lance des alertes parce que moi, si heureusement que, bon, il en a parlé, j'ai eu le rapport, je l'ai lu, il y a beaucoup d'anomalies dans le rapport de ITU 2020. Mais quand il dit que, on a dit, mais les accords, c'est que si le Togo pouvait être rétabli, si on produisait aujourd'hui le rapport de 2022, alors que nous sommes qu'au rapport de 2020. Donc on a accusé 2 années de retard.
Non, non.
Merci. Et l'article dit quelque part que, s'il te plaît, l'article dit quelque part qu'au nom de la transparence, afin de permettre à chaque citoyen de savoir ce que pèse l'État, que le ministère de l'Économie et des Finances publie régulièrement le répertoire des actifs financiers de l'État. C'est un devoir de transparence.
C'est très important.
Sani Aya a le devoir
de
nous éclairer dans quelle société nous sommes actionnaires et ce que nous rapporte ces sociétés-là, parce que au budget de l'État, ces sociétés sont censées verser quelque chose. Si nous avons un taux élevé d'action, les dividendes seront en conséquence.
Non, pas les dividendes, même il y a des sociétés dans le rapport qui ne paient même pas les impôts ni les taxes.
Ouais, c'est pas normal.
Mais c'est pas normal. Et il y a d'autres aspects de ce rapport.
Oui.
Et la responsabilité sociétale. Des individus.
Merci.
Là.
Il est 12h30, il y a des gens frais, des individus. Que je vous arrête dans votre élan, que nous puissions adresser le clin d'œil de la radio à nos partenaires, et puis nous continuons avec les auditeurs. 93.5. Nous avons parlé aujourd'hui des sujets riches et variés, l'un ou l'autre devrait vous intéresser. À présent, nous passons les micros par le biais de deux numéros de téléphone que vous connaissez déjà très bien. La preuve, premier auditeur qui s'annonce, bonjour. Allô? Allô? Le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75. Un auditeur m'écrit que nous interpelle et surtout la direction des mines et le ministère de l'économie de clarifier cette affaire-là des actions de l'État dans les sociétés extractives. C'est bien noté. Premier auditeur en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, grand frère Sosgao. Bonjour, le plateau.
C'est Benoît Dagoué.
Oui, grand frère, c'est moi.
Ok, nous écoutons.
Ok. Premièrement, je vais parler de la décision du ministre de l'Éducation, M. Kokoroko.
Oui.
Comme un de vos confrères l'a dit, le ministre devait nous envoyer la solution avant de demander la permission. Ou bien il devait faire région par région, préfecture par préfecture, la permission de ces écoles. Bon, secondo, je félicite tous les Sénégalais, Sénégalaises, surtout le président Macky Sall. Il nous a surpris hier. Et je vois que, comment dirais-je? Bon, et je ferme. Il a évité le nombre de morts et les manifestations qui se passent en France depuis samedi là. Nous n'avons pas entendu des morts. Pourquoi en Afrique, quand il y a des manifestations, nos propres soldats nous tuent? Bonne journée.
Merci. Bonne journée à vous également, Benoît Dagoué. Le suivant, bonjour.
Oui, ça c'est bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
Ah, comme vous nous écoutez.
Ah, que le Seigneur vous bénisse.
Amen.
C'est l'évangéliste Senghor.
Oui, nous avons compris.
Bon, moi, je vais m'intéresser sur le dossier de Cocoroco pour c'est-à-dire que renvoyer ou bien, bon, exclure les 200 et quelques écoles privées.
Non, il les a suspendues jusqu'à ce que ces écoles-là redeviennent régulières.
Mais il faut ça, mais quand même, monsieur Sass, moi, je vais... C'est un prêt, c'est un Togolais, hein. Aujourd'hui, toutes ces écoles privées, ils vont, tout le moment suspendu, ils vont manger quoi? Mettons la balle à terre.
Oui, mais l'ami Senghor, l'État oui. a émis des normes qui réglementent le secteur de l'éducation. Nous avons parlé de la sécurité physique, nous avons parlé de la sécurité pédagogique et du niveau de formation qui est dispensé dans ces écoles. Ah, il est parti. Oui, oui, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Komi.
Oui, Komi.
Oui, dans la même lignée sur le dossier Cocoroco, moi j'aimerais savoir qu'en est-il des établissements publics qui sont dans le même cas que les établissements privés. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous connaissez le PP Palongo qui est au niveau de Agoué, Aoutazongo. Je veux parler du bâtiment de la Chine populaire du lycée technique et du bâtiment en couvert de paille ou bien de tech. Le tech est un peu de tuile au niveau de lycée moderne 2. Pour ne pas citer EPP Clémé ou bien EPP Bougomé. Nous sommes à l'homme, hein? Pour ne pas faire envier EPP Pagou. Les établissements publics qui sont dans les mêmes conditions, le ministre en dit quoi. Maintenant, par rapport à Macky Sall, moi j'aimerais demander à Macky Sall de prêter son discours au président de la République, son excellence, son assimilé, qui peut nous aussi nous le faire vivre au Togo 228, parce qu'on en a besoin. Beaucoup l'ont dit, c'est, les gens veulent respecter la Constitution. Quand nous prenons la Constitution des États-Unis, il n'est pas dit que vous devez faire l'une que en ne comptant deux mandats. Mais les gens prennent la routine de ne faire que deux mandats. Donc, au président Macky Sall de nous prêter ce discours-là, peut-être nous faire ça aux 220.
Merci. Merci. Comme il s'est bien noté. Le suivant, Aline, bonjour.
Monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Je voudrais savoir si le ministre, votre ministre de tutelle peut participer à cette remise de prix pour votre confrère là, Ferdinand Ité. Il paraît que ça se passait serait aux États-Unis.
Oui, bon, je ne sais pas. Hein. Il appartient au comité pour la protection des journalistes d'inviter les personnes à la remise solennelle des prix.
D'accord, ce sera une honneur.
Ok.
Et pour Macky Sall, c'est pas Macky qui a gagné, c'est pas Sokko qui a gagné, c'est tout le Sénégal. Là, on s'en félicite.
Merci.
Et puis, il faut que cette gamine-là, il faut qu'elle se taise, monsieur Sass.
Vous parlez de qui?
Elle a pris goût pas, 5 fois de suite, et puis après, elle vient nous foutre du bordel.
Vous parlez de qui?
Dis ça. Il faut que cette dame-là se taise.
Quelle dame, s'il te plaît?
Pardon?
Vous parlez de quelle dame?
A dit ça de son corps pour le viol là. 5 fois non. Viol, une femme et elle s'était. Maintenant qu'elle a pris goût, elle vient nous foutre.
Bon, l'affaire a été traitée par la justice, la décision, elle est déjà connue. Le suivant, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
Ouais, je voudrais intervenir sur le cas Macky Sall.
Oui, c'est monsieur.
Allô.
Oui, vous êtes monsieur.
Ouais, monsieur Laurent.
Laurent, vous appelez d'où, s'il vous plaît?
Oui, c'est pour rien, un de vos collègues qui disait que Macky Sall pouvait se représenter parce que la Constitution le lui autorise. Bon, c'est pour, je voulais savoir, parce que si des présidents qui font un mandat, après son deuxième mandat, à mi-chemin, ils transforment la Constitution pour se représenter. Vous trouvez ça normal?
Non, c'est pas nous qui jugeons. Nous apprécions selon la Constitution de chaque pays et les événements dans le pays.
Si des gens vont venir, ils font un mandat. Deuxième mandat, ils transforment, ils restent pour dire que le mandat est remis à zéro. Le compteur est remis à zéro. Mais nous ne sommes pas quand même... Mais ils ne sont pas plus intelligents que les autres. pour chaque fois faire ces petits jeux-là, comme le cas du Centrafricain qui est en train de jouer avec son peuple. Vous voyez. Donc, merci beaucoup. Bonne émission.
Je vous en prie, l'ami Laurent, qui passe le témoin au suivant. Bonjour.
Ouais, ça c'est bonjour.
Oui.
Ouais, c'est le Seigneur qui revient là.
Ok.
Ouais, c'est tout pour Macky Sall. Vous voyez, ça, c'est tout comme chez nous au Togo. C'est les fans, ceux qui sont entourés du président, qui met le président dans cette affaire de mandat, de troisième mandat, quatrième mandat. Vous voyez, non? Ça veut dire qu'ils sont là pour profiter. Sinon, excusez-moi, les chefs d'État n'ont pas de problème. Mais ceux qui sont alentour, les ministres, quoi, c'est mon ami, le président, là, pour profiter, ce sont eux qui mettent les chefs d'État africains dans ce jeu. Vous voyez, sinon, moi, je salue Macky Sall, hein, vraiment pour ses initiatives. C'est ça. Vous voyez, donc, je crois que ses initiatives, sa décision prise va donner leçon à d'autres présidents. Après la présidence, il y a la vie, hein, monsieur Sass. Après la présidence, là, il y a encore une vie meilleure que celle-là. Aujourd'hui, voyons le cas de notre président Fornia Singe. C'est un jeune, mais vraiment rempli. Ça dit que non, il est fatigué. C'est une petite affaire. Je crois qu'après la présidence, il y a une vie meilleure que ça. Que Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup.
Macky Sall disait hier que le Sénégal regorge de beaucoup de talents, beaucoup de cadres qui sont susceptibles de conduire son pays à l'émergence. Ce qu'il a dit pour le Sénégal peut valoir pour d'autres pays. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
Et si j'ai dit félicitations à Ferdinand.
Mm-hmm.
Il est persécuté chez lui et rehaussé à l'extérieur par les mêmes blancs qui soutiennent nos régimes, quoi. C'est les mêmes. Et pour Macky, il s'est rédifié à cause de ce qui se passe en France où les gens sont bien, mais révoltés, quoi. Par l'injustice et tout le reste. C'est ça qui lui a fait peur.
Mmh.
Et puis, je me pose beaucoup de questions à moi-même, quoi. Dieu a créé nos dirigeants africains, là. Avec quelle gêne? Moi, je comprends pas. L'argent et le pouvoir. Deux mandats. 10 mandats. 5 mandats. Jusqu'à 12 chez nous au Togo ici. Et les gens ne sont pas rassasiés. Les gens ne sont pas rassasiés. Regardez ce qu'ils font avec les élections qui viennent, là. La même chose. La même chose depuis 30 ans, 40 ans, tout ça, là. Dans une indignité criarde. Et pour venir aux écoles fermées.
Oui.
Vous avez vu que vous nous fabriquez des dieux sans le savoir, hein, vous les journalistes. Parce que vous jetiez des fleurs au ministre de l'Éducation. Tellement qu'il s'est cru notre Dieu, quoi, ici, au Togo.
Et si,
il ferme les 255 écoles, pourquoi? Combien d'écoles ils ont créées depuis 63 qui sont là? Combien d'écoles? Et les vieilles écoles, là, est-ce qu'ils les ont réhabilitées au moins? Non! Quand on va pour les inscriptions, vous avez vu les écoles là où on va s'inscrire? Hein? Moudia Finania.
Merci. Si, laissez-nous seulement vous informer sous tous les angles. Vous ferez votre opinion. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Oui, s'il vous plaît, c'est Abel.
Abel.
Oui.
Ok, allez-y, Abel.
Bon, M. Sass, je ne sais pas si vous pouvez me permettre de parler d'un sujet que vous n'avez pas débattu aujourd'hui.
Non, de préférence, le sujet inscrit.
Oh, je suis désolé alors.
C'est tout? Merci beaucoup. Eh bien, les auditeurs, ils sont entrés en jeu. Chacun a essayé de nous enrichir. J'ai quand même bien aimé ceux qui se sont demandé si toutes les écoles publiques existant au Togo répondent aujourd'hui aux normes. Je pense que la commission du professeur Kokoroko devrait également nous rassurer sur cela. Maintenant, la parole est à vous pour votre conclusion.
Ouais, sur cet aspect, c'est très important, puisque la mission qui a été commanditée, c'est pour voir les écoles laïques et confessionnelles. Maintenant, il y a beaucoup de questions aussi qui se posent au niveau des établissements publics. On a égrené toute une litanie d'écoles à Lomé. Je vais en rajouter. l'école primaire publique Kumpati.
Je crois que ça a été un peu assaini, non?
Assaini? Quand il pleut, c'est le problème, le problème demeure.
Mais les cas que je connais aussi, il y a l'école Aniko Palako.
Ah, chez nous là.
Oui, là. Et puis oui, il y a également l'école primaire publique de Djokalegba à Tochi.
Même l'école primaire publique, c'est Nyasi. C'est là, Nyasi. 13 janvier. Au niveau du lycée de Tokoué, derrière le lycée de Tokoué. C'est toute une poubelle.
Ah non, moi je parlais de.
Ah non, ah bon.
De Rejanaoué.
Non.
Il y a une école 13 janvier à Rejanaoué.
Il y a une école publique derrière le lycée de Tokoué et qui joue avec le camp RIT.
Oui.
Allez-y, voilà. Mais c'est toute une poubelle. Donc le ménage aussi doit se faire à ce niveau. Et nous exhortons le ministre de tutelle à faire aussi le ménage. Parce que c'est comme on le dit,
charité bien ordonnée.
On commence par soi-même.
Alors tu as un carton pour ponctuer tout ça?
Oh, un carton, toujours, je vais encore réitérer. Pratiquement, ça fait plus d'un an que je brandis ce carton rouge.
Eh bien, répète.
Mais c'est nos feux tricolores. C'est pas comment.
C'est
pas
un peu comme ici, quoi.
C'est nos feux tricolores. Non, et si il faut
l'alternance.
Il faut alterner.
Il faut alterner.
Moi, je dis qu'il faut revoir nos feux tricolores parce que c'est source d'accidents.
Oui. Merci. Eric.
Moi, je commence par le carton. Je vais donner un carton vert à la Lonato. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous avez un problème, il faut toujours chercher des solutions. Il n'y a pas très longtemps, la Lonato nous avait invité pour couvrir l'arrestation des joueurs clandestins. Ce ne sont pas des écoles clandestines, mais ce sont des joueurs clandestins. Mm-hmm. Et parce que ceux-là, on les appelle les sous-marins. Mm-hmm. Ils attendent toujours que on clôture les jeux et ils continuent pas à jouer.
Folona.
Et lorsqu'il y a des gens gagnent, ils peuvent s'enfuir parce que ils n'ont pas l'argent pour payer ceux qui ont gagné. Donc la Lonato a trouvé une première solution, c'est la numérisation totale de tous ces jeux. Et l'autre solution également, c'est que quand vous jouez dans les points de vente de la Lonato aujourd'hui, vous êtes automatiquement payé 5 minutes après les résultats. Mm-hmm. Et donc là, ce sont des innovations que véritablement j'ai trouvées importantes et que ça va arrêter ce phénomène de sous-marin. Et donc les gens n'iront plus jouer puisqu'il n'y a plus de tickets à aller pointer les trucs. C'est fini cette histoire-là.
Il sera désententé parce que les baraques sont toujours là.
Oui, oui. Aujourd'hui, quand vous-même vous voyez quelqu'un dans ces baraques-là, vous n'y allez plus parce que vous n'êtes pas sûr de gagner. Merci. Et de recueillir vos gains.
Ensuite,
donc, véritablement, un carton vert à chose. Alors, je voudrais chuter par Macky Sall, puisqu'on en a longuement parlé. Ce que je disais, c'est que Macky Sall, il a intérêt à ne pas aller à ce troisième mandat. Tout simplement. Je le félicite. J'encourage les Sénégalais à toujours nous faire rêver que la démocratie est une très bonne chose.
Sam Alnas Tetereou Diobo.
Oui, il y avait une information qui a été débattue dans les précédentes émissions ici. C'est concernant le club Semassi de Sokodé qui avait des soucis avec son ancien entraîneur Tchanile Tchakala, mais depuis le 21 juin, il y a un accord qui a été trouvé entre le club et le coach, mais l'information n'a pas suffisamment circulé. Je voudrais porter ça à la connaissance du public. Donc il y a eu une entente entre le club, le staff dirigeant du club et l'ancien entraîneur pour le paiement de 3 500 000 francs représentant la moitié de ce qu'ils réclamaient, parce qu'ils ont pu parvenir à un accord qui voudrait que les charges soient supportées à égale partie par l'entraîneur et par le club. Donc, il est rentré dans ses fonds et sur la base de cet accord, il devrait aller au niveau de la Fédération Togolaise de Football pour annuler, pour envoyer un courrier annulant la sanction contre le club. Donc, c'est une information importante qu'il faut porter à la connaissance du public pour dire que c'est massif.
Mais ces créanciers vont l'envahir.
Non, mais attends, c'est un truc connu. C'est déjà sur certains sites de médias sportifs. Ce n'est pas caché. Est-ce qu'il a des créanciers?
Nous, c'est l'information à temps réel.
En temps réel.
Toute la transparence.
Transparence. 3 500 000 francs que le coach a reçu. Donc, je crois que l'incident, ou bien le différend qu'il opposait avec le club a été résolu. Maintenant, pour le carton, je donne un carton vert au général Yark Damian, qui a présidé une réunion le 30 juin dernier avec 300 fonctionnaires de la police pour essayer de pousser loin la réflexion pour lutter contre l'insécurité dans toutes ses formes sur l'ensemble du territoire.
Merci, c'est une belle transition. C'est un sujet que nous avons retenu, mais dont nous n'avons pas pu débattre. Je termine avec la revue de presse. Quand on parle d'Union, qui écrit que à ce côté, 5 trafiquants de défense d'éléphants purgent leur peine. Je rappelle que ce côté, c'est le germain de quelqu'un à ma gauche ici. Suivez mon regard. Autre information, c'est Symphonie qui nous la donne aussi. Démantèlement d'un réseau de voleurs à Cara. La toile salue un policier résilient contre l'hameçon de la corruption. Ce policier qui a rejeté l'offre d'un voleur arrêté qui lui promettait 1 million de francs CFA.
Lui promettait ou lui donnait ?
Lui donnait 1 million. Voilà. Le policier, il est resté intègre. Il a rejeté cela et le voleur apprenti corrupteur se retrouve dans les mailles de la police avant de continuer plus loin. Le messager aussi nous parle justement de cette assemblée, de cette rencontre de tantôt Sam Diobo, le général Yark qui galvanise la police nationale. La police nationale qui a tenu le vendredi dernier sa réunion de commandement. L'occasion pour la police de mener des réflexions pour venir à bout des faits d'insécurité. Alors, à la réunion, il y avait des directeurs régionaux, des directeurs de secteur, des chargés de commissariat, des commandants des postes de police, des commandants de brigades de recherche d'intervention, et également ceux des brigades anticriminalité, des compagnies républicaines d'intervention. Et lutter donc des faits d'insécurité, notamment la cybercriminalité, les outrages publics à la pudeur et les cambriolages de plus en plus récurrents. Et l'éveil de la nation également qui nous parle de ça, Yark, au cœur de l'action. Le général Yark donc qui s'apprête davantage à s'investir pour la protection des citoyens togolais. Carton vert donc à toutes les forces qui assure la sécurité publique. Et carton vert à nous aussi, et puis à ceux qui nous ont écoutés, qui vont nous écouter également demain mercredi.
Si Dieu le veut.
Dieu l'a déjà voulu. Okay. C'est pas pour rien qu'on est allé à la Mecque, Sam Diobo. Eh bien, rendez-vous demain mercredi.